BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe du côté des agriculteurs. Est-ce que ces blocages sont justifiés? Ben justement, on en parle avec quelqu'un qui revient de ces blocages. Bonsoir Nicolas Chavanne.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, fondateur de C'est qui le patron? J'ai envie de dire maintenant, vous êtes devenu une star. Hein. C'est vrai qu'on vous voit partout. C'est à vous demander si vous n'êtes pas en train de prendre la place des autres leaders syndicaux, mais on reviendra sur ce point-là. Puisque vous revenez de ces blocages, donc d'abord, ça veut dire ces barrages, ouais. Merci d'être là, parce que je pense que ça a été un peu compliqué. C'est quoi l'ambiance? C'est tendu? C'est extrêmement tendu? C'est bon enfant?
Ben, le premier mot qui me vient, c'est déterminé. Il y a une vraie gravité. À la fois, ils sont tous très très fiers. J'ai pu discuter avec beaucoup d'entre eux. Ils sont très fiers de leur métier. J'ai vu où ce soir tous allaient dormir dans un fond de camion ouvert. Enfin, il faut se rendre compte que c'est pas facile leur vie tous les jours.
Mais c'est clair.
Le blocage, c'est très compliqué pour eux.
Le blocage est très compliqué pour eux.
Ouais, c'est pas facile, c'est important. Ils ressentent une chance infinie, enfin, de pouvoir montrer à tout le monde à quel point il y a besoin de changement. Mais vous savez que ceux qui sont là doivent se faire remplacer. Il y a les parents à la retraite de 80 ans qui remplacent dans les fermes. Ils sont ultra fragiles dans leur métier de tous les jours et il faut en plus qu'ils viennent manifester.
Oui, mais j'ai employé le mot Nicolas Chavanne justifié. Pour une raison précise, c'est en fait, il y a eu les propositions qui ont été faites donc par Gabriel Attal, qui quand même, malgré son discours de politique générale qu'il doit préparer, hein, demain c'est quand même un exercice pas simple pour un Premier ministre, il a été sur place, il a été les rencontrer, il a fait des propositions en disant bien, évidemment, ce ne sont pas les dernières. On sait là, à l'instant, puisqu'il a rencontré le Président de la République, qu'il y aura de nouvelles mesures qui vont être annoncées demain, lors de son discours de politique générale, mais pas seulement. Il y a un Conseil européen où Emmanuel Macron va parler à la van de Leyen, des difficultés des agriculteurs, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout en Europe, sur la question des achats. J'ai envie de dire, au moins, vous auriez pu lever les barrages le temps de ce calendrier quand même très serré.
Bah non, parce que je ne parlerai jamais en leur nom, mais je peux me faire témoin évidemment de ce qu'ils nous disent, à nous consommateurs. Hein, on est très solidaires d'eux, hein, il faut quand même qu'on se le dise tous en France aujourd'hui. Quand depuis 40 ans, tu as une vie très compliqué. Tu gagnes pas ta vie, tu ne t'en sors pas, tu signales en douceur, parce que c'est pas les plus virulents, vous les avez rarement vus dans la rue, que tu mérites quand même juste de vivre de ton métier, et que rien ne se passe. Et qu'il y a un mois et demi, les vœux présidentiels ne parlent pas d'agriculture et de ce problème. À un moment donné, quand enfin on entend que ces difficultés sont intenables. On ne parle pas d'un caprice. Ils ne sont pas en train de demander 2 jours de congé de plus. Ils veulent juste survivre, vivre de leur métier. Eh bien, tu vas au bout de cette action et surtout, sépare pour enquiquiner le monde.
Okay,
c'est l'expression naturelle d'un ras-le-bol.
C'est un ras-le-bol, on est bien d'accord avec toutes ces normes, etc. Mais reconnaissez, vous-même, vous avez eu à utiliser le mot, ça fait 40 ans, voire plus, qu'on emmerde les agriculteurs. D'accord, mais là, le gouvernement, c'est pas en 2 jours. Qu'est-ce qui peut les arrêter à ce moment-là? Ils peuvent bloquer Paris encore pendant 20 jours, pendant 20 mois. Qu'est-ce qui peut les arrêter? Parce que
Attal,
il ne peut pas tout.
Ben, il faut vraiment, on se le disait, techniquement, qu'est-ce qu'il peut faire le gouvernement? Il y a déjà bien des choses, il suffit d'écouter, d'entendre et de lire ces demandes qui sont toutes légitimes. Mais dans la forme, je pense qu'il y a... Ben après, chacun fait ce qu'il veut, hein, je ne suis pas responsable de la communication du gouvernement.
Non, mais vous faites partie de ce monde.
Mais franchement, là, je fais partie de ce monde. Quand dans la forme, il y a encore ce côté technique qui finalement vient les voir, dit 2-3 choses, fait un peu des phrases, ils me le disent, il y a beaucoup de blabla.
Donc, au bout d'un moment, il faut de l'action. Son discours, c'était beaucoup du blabla.
Ah, c'est ce qu'ils me disent.
C'est pas sa méthode. Hein, c'est pas sa méthode.
C'est ce qu'ils me disent. Bah, évidemment, il y a ce talent, cette capacité à dire les choses différemment. Mais il y a ce côté un tout petit peu hors sol de tous ceux qui réfléchissent l'agriculture, qui prennent des décisions et qui ne se rendent pas compte à l'autre bout de ce que peut donner des petites décisions à distance, des temporisations. Pour moi, je vais vous dire, il y a une seule chose à faire si je devais imaginer un scénario qui peut-être trouverait des solutions. C'est de reconnaître, mais vraiment collectivement qu'on s'est totalement trompé. Mais évidemment, le monde politique, mais tout le monde, les distributeurs, les fabricants, on découvre que des gens à nos portes qui nous nourrissent sont dans une situation mais quasiment inextricable. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il faut retrouver de la confiance, il faut leur dire, écoutez, il n'y a rien de plus important que vous,
c'est
vous nous nourrissez, on repart de zéro.
Le Premier ministre, encore une fois, je ne fais pas le porte-parole du Premier ministre, c'est juste pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut arrêter cette colère. Lorsqu'il dit, on met et je mets l'agriculture au-dessus de tout. C'est quoi d'autre?
Quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, ça débute bien, et c'est plutôt quelque chose de très positif, mais ensuite... Mettre au-dessus de tout l'agriculture, c'est se réveiller un lundi matin et dire, écoutez, on s'est trompé, on repart de zéro, on reprend chaque point, vous nous faites des demandes, et en fait, on négocie pas avec des gens qui nous nourrissent. On va tout faire, mais vraiment d'urgence, pour déjà que vous vous sentiez entendu. Sinon, c'est une forme de gestion face à des demandes de solutions finalement partielles. Et quand tu es agriculteur, quand tu gagnes pas ta vie, quand tu gagnes 300 euros par mois, quand tu bosses 7 jours sur 7, tu as envie d'autres signaux.
Pardonnez-moi, c'est qu'il y a de tout, hein, parce que le revenu médian des agriculteurs, c'est pas 300, hein, c'est plus de 1000 euros. Donc, c'est qu'il y a des céréaliers. Et puis, il y a l'agriculteur qui fait de l'élevage du porc, l'élevage, il y a le producteur de lait.
Une précision, il y a 50 000 euros annoncés de revenus d'un couple d'agriculteurs en France annuel, mais les deux tiers sont portés par, généralement, le conjoint qui travaille et qui permet à la famille de se nourrir. Non, mais franchement, c'est pas une revendication. On découvre, soyons humbles et même bienveillants. Les gens qui nous nourrissent ne s'en sortent pas ou pas assez.
Oui, mais bien sûr.
Vous vous rendez compte, se nourrir, c'est de la nourriture à nos portes. Il me semble que tu en fais plus qu'une priorité verbale. Humblement, tu te remets en situation de te dire, on s'est trompé. C'est pas grave de se tromper. Si à un moment donné on trouve des solutions, c'est pas très grave. Et si surtout on se met intellectuellement à en trouver. Et là, tu écoutes, tu vas sur le terrain, effectivement, tu mets des bottes, tu vis aux côtés de ces agriculteurs et tu fais ce qu'ils te demandent.
C'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire, mais lorsque le président de la FNSEA dit il y a 184 propositions et c'est tout ou rien.
C'est
un peu compliqué, vous voyez, quand vous êtes politique.
Le tout ou rien, pour moi, c'est une erreur parce qu'il y a un côté négo, c'est tout ou rien. Non, il faut peut-être, avec encore une fois, un peu plus de mesure à tous les niveaux, dire écoutez, désolé, on s'est tous trompés, le réveil, c'est 185 points à changer. Voilà. Ok, on s'en est pas forcément tous rendu compte, on démarre aujourd'hui. Et là, on reconstruit dans une notion de confiance, et à un moment donné, on se donne le temps d'avancer. Ils lèveront des barrages le jour où ils auront la sensation, au-delà des mesures et des réponses immédiates, qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'écoute de leurs problèmes, dans la considération de discussion et de leur métier. Donc voilà, c'est un Everest à remonter pour nous tous, pas seulement pour le gouvernement. Et dans ces cas-là, face à des gens, encore une fois, qui nourrissent et nos familles et nous-mêmes, il faut qu'on ait beaucoup d'humilité, beaucoup plus que certainement tout le monde en a aujourd'hui.
Donc, j'ai envie de dire, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que dans tout ce que vous dites, il n'y a rien, vous voyez, il n'y a rien de palpable. Il faut qu'on se mette autour d'une table. Il y a encore une autour d'une table.
Non, mais il y a des mesures concrètes
qui se parlent tout le temps.
Je ne reliste pas et qui déjà soulageraient terriblement.
Alors, de nouvelles mesures. Vous, quelles sont les mesures que vous appelez de vos voeux, Nicolas Chaban?
Évidemment, ces contraintes, c'est pareil. Là, c'est un logiciel à changer. Quand on sait qu'ils font 2-3 heures par jour pour aller faire des paperasses, des documentations.
Ça, il l'a dit.
Et ça veut dire que ceux qui le font, ils doivent changer leur logiciel ou changer de métier. À un moment donné, ils doivent se dire, attends, on va faciliter les choses. Ensuite, il y a toute la série de mesures que vous connaissez, mais il y en a une qui est très, très, très fragile aujourd'hui, c'est la rémunération. Mmh. Comment on fait pour que ces familles qui produisent tous les jours de quoi nous nourrir vivent de leur métier? Là, il y a un rôle clair du consommateur. Non pas pour tout payer à la place des autres acteurs, on ne doit pas tout payer, mais pour arbitrer, pour mettre une pression positive et bienveillante sur les fabricants, les distributeurs, en leur disant, écoutez, si vous nous faites des produits où on est certain, en le voyant clairement, que le producteur gagne sa vie et que nous, consommateurs, on n'est pas...
C'est ce que vous faites avec vos briques de lait.
Oui,
et on a briques de lait.
Voilà, on le fait avec ses guides patrons, mais je peux vous parler de quelque chose qui est une jolie histoire aussi, si on a encore un peu de temps. On a créé un sondage parce qu'on voulait comprendre si, comme nous, on est 16 millions d'acheteurs des produits, on est 13 000 dans la COP. Mais tous les Français pensent quoi ? Est-ce que la coopérative, ouais. Est-ce que vous rendez compte, comme nous, qu'on risque un jour de manquer de nourriture française ? On se dit 20% vont dire oui. 78% ont dit oui, on en a conscience, il y a des enjeux. Est-ce que vous êtes prêt à rajouter des centimes si on est sûr que ça va aux producteurs ? On nous avait dit, vous avez 30% de gens prêts à le faire, 77% prêts à le faire. Et là, on a fait naître, pour illustrer la question, un tout petit picto, tout simple, fait par les équipes Bravo en 2 heures. Je rémunère au juste prix mon producteur.
On va le voir,
je ne sais pas si on le verra.
On va le voir, oui.
Je rémunère au juste prix mon producteur. Et en dessous, et c'est très important, vérifié par les consos. Ce picto débarque sur les réseaux. Tout le monde nous appelle en disant « ça, c'est ce qui manque aujourd'hui dans les rayons ».
Mais comment vérifier par les consos ? Comment je peux vérifier si ça, le litre de lait que je vous ai acheté, eh bien ça va bien aux producteurs ?
Ça marche très bien depuis 8 ans. Ça peut paraître, pour tous les grands acteurs experts, « mon Dieu, les consos, on ne peut pas s'appuyer sur eux ». Bah si, regardez, on a fait, nous, cette démarche. Et ça marche comment ? Je reprends ce picto. Il y a un produit, des endives, dans le Nord. Il y a un exemple qui est en train de se préciser. Le producteur vient voir le magasin. Il lui dit, j'ai besoin de 2,40 €. Pas 1,20 €. OK. Le magasin dit oui. Et il y a un consommateur, comme on le fait dans la boucle. Très bien. Vous êtes heureux, monsieur, à 2,40 €? Oui. Le magasin, bon, je ne le mets pas à 7 €, je vais le mettre à 3,60 €. Enfin, hein, quelque chose de raisonnable. Tout ça, ça se discute avec un consommateur représentant des autres dans ce moment-là. Très bien. Une fois que ça s'est fait, on a la possibilité de dire ce produit aide le producteur et il est raisonnable, cohérent dans son prix final. C'est là où apparaît, comme dans ce qu'il patron, prix voté, conseillé par nous les consommateurs. Pourquoi ça change tout ? Parce que 3 mois après, le même consommateur local près de ce producteur pourra l'appeler en disant « ça va toujours bien sur le prix ? Pas de souci, ok ». Et c'est comme ça qu'on va pouvoir ramener dans les rayons des produits qui protègent les producteurs et qui nous protègent, nous, consommateurs, de prix délirants ou incompréhensibles. Parce que la transparence, c'est l'avenir d'une meilleure répartition de la valeur. Donc voilà, c'est très simple. On n'est pas, on dit humblement tout ça parce qu'il y a urgence, on essaie de trouver des solutions. Alors, il faut qu'on se mobilise tous.
Nicolas Chaban, on voit que vous êtes très très engagé sur ça. On n'a pas encore très bien compris où est la petite étincelle. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on peut sortir de cette crise ? J'imagine que vous n'avez pas non plus une baguette magique. Cela dit, qui est responsable de cette situation ? On a compris, bon, les politiques, les décideurs, les différents ministres, les premiers ministres, les présidents, etc. La grande distribution, est-ce que vous les clouez au pilori ? Parce que là, c'est la fin des négos. Le mercredi prochain, donc après-demain, qui est responsable ? Moi, je n'arrive pas à savoir où sont les marges. Qui ne s'en met pas plein les poches ? Parce que de manière, c'est des marges toujours assez faibles. Mais qui est responsable ?
Tous les acteurs, vraiment, sont responsables. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tu as une famille qui s'appelle les producteurs. Ce sont des gens qui ne disent pas grand-chose. Ils souffrent, ils sont presque un peu séculaires. C'est-à-dire qu'il y a une notion de « c'est pas facile, mais bon, on espère que ça va s'arranger ». Et qu'est-ce qui se passe ? On va le refaire, le schéma, vous le connaissez par cœur. Je suis un distributeur, j'ai mon voisin qui est lui-même distributeur, il baisse le prix, je le baisse. Voilà. À un moment donné, cette pression du prix bas fait
parce
que
sollicité par les Français aussi.
Non.
Parce que, mais si, regardez les parts de marché que prend Michel-Edouard Leclerc, enfin les centres Leclerc, parce que justement, ils sont sur les prix bas. Sondage BFM TV, ouais. Il y en a 53% des Français qui disent oui, je comprends très bien, effectivement, il faut soutenir les producteurs. Puis en même temps, il y en a un tiers qui dit ben moi, je suis désolé, je ne peux pas les acheter.
Alors, le tiers, quand je dis non, c'est pour dire pas tous les Français. Il y a une responsabilité. Pendant 40 ans, on s'est dit, le prix bas, seule boussole. On envoie tout en bas, et donc la surface molle, les producteurs, évidemment, ils sont dans d'immenses difficultés. Non, 4 euros de plus par an pour sauver des producteurs de lait. On n'est quand même pas 1% de Français à pouvoir le faire. Donc, il faut que des produits solidaires des producteurs soient clairement identifiés en rayon pour que la part de ceux qui peuvent le faire, au moins puissent le faire. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, dans un rayon, dans un magasin, vous avez 20 000 produits. Dites-moi combien de produits vous garantissent qu'en l'achetant, vous redonnez le sourire aux producteurs.
Oui, mais en même temps, on voit bien que les Français vont quand même vers les prix les plus bas.
Alors, toute une famille de gens qu'on n'oubliera jamais ne peuvent pas faire autrement. Oui. Et il faut penser à eux et trouver des solutions. Mais tous ceux qui peuvent rajouter quelques centimes, un seul exemple sur les barrages tout à l'heure de l'A4, un producteur, Benoît, producteur d'œufs, on fait une petite vidéo explicative et je lui dis mais qu'est-ce qui te manque alors sur des œufs bio pour vivre de ton métier ? très concrètement, sur une boîte de 6 œufs, il me dit, il me manque un centime. Un centime. Alors, je lui dis, combien est vendue ta boîte en magasin, ta boîte d'œufs ? 3,50 €. Donc, tu veux dire qu'à 3,56 €, ta vie change ? Oui. Si à un moment donné, on regarde que dans la direction de la baisse du prix, et qu'on ne regarde pas ce qui peut être rajouté
donc,
sur un produit...
Donc, c'est quand même la faute de la grande distribution.
Bah non, c'est la faute de l'ensemble des acteurs. Et là, tout le monde va se réveiller. Hein. Je pense vraiment que là, il n'y a plus personne qui peut se dire
c'est
ça.
C'est sûr que de manière, on ne les voit plus.
Le tour de magie ne continuera pas. On a une responsabilité collective. C'est là où il y a un bel arbitrage à faire au niveau du gouvernement en disant, on repart d'une feuille quasiment blanche. On n'essaie pas de rafistoler des choses dans des zones un peu complexes et on reconstruit quelque chose
d'équilibré. Les lois Egalim, finalement, sur le papier, elles partaient d'un bon sentiment. D'abord, je crois que vous en étiez un peu un des auteurs, entre guillemets, inspirateur. Et on voit un peu le résultat. Pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose.
Ça illustre tout ce qu'on se dit. Voilà une loi qui est très intéressante sur le papier. Repartir de ce qu'il faut aux producteurs, de rendre absolument inattaquable cette partie et remonter par au-dessus les marges et faire en sorte que c'est le système de Cécile Patron. Ils se sont inspirés de Cécile Patron. Mais on leur a dit, attention, il faut que le prix annoncé comme étant le bon pour le producteur, ce soit tous les producteurs individuellement qui le disent. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui, au nom des producteurs, détermine ce prix. C'est des petites choses à régler. Et là, mettez dans ces réunions, je vous le dis en une seconde, Madame Dupont, Monsieur Durand, nous les consommateurs. Quand la grande marque nous dira, ou dira dans cette réunion, bon, je ne peux pas faire ce prix-là, on baisse, le producteur, tu auras ça. On va lever la main en disant, attendez, excusez-moi, mais vous faites ça avec notre argent, donc vous n'allez pas faire ça. Vous allez protéger ce producteur, sinon on n'achètera plus vos produits. C'est le succès de Cécile Patron.
Allez, en conclusion, mouillez-vous. Demain, ou en sortant d'ici, le Premier ministre vous appelle et vous dit, donne-moi une mesure à prendre qui permettrait de débloquer la situation.
Eh bien, ce que je lui dirais au-delà d'une mesure, parce qu'il en faut bien plus, vous avez évoqué des dizaines de points, il faut sortir d'une forme de posture technique de gestion du problème de façon politique et véritablement, très humblement dire, ok, on repart de vos vies, on va venir voir dans les exploitations ce que sont vos vies et on reconstruit avec vous une vie différente, construite avec un partage de valeurs différent.
Merci beaucoup Nicolas Chaban. On vous laisse repartir là-bas. Vous allez retourner sur ces barrages qui sont en train de progresser en tous les cas. Et puis dans l'attente de ce discours de politique générale et de nouvelles mesures donc annoncées. Merci beaucoup d'avoir été avec
nous. Merci, bon courage aux producteurs.
Avec vos petites briques, on a vu tout ce qu'il fallait. Vous pouvez retrouver ça sur le site de BFM Business. Merci beaucoup.